6h04, jeudi 23 septembre. Bonne journée, bienvenue au 98.5. Alors, ce matin, vous dire qu'on a un ciel qui est généralement nuageux, 21 degrés, avec, ça c'est la situation actuelle, le maximum aujourd'hui devrait atteindre 27. C'est encore très chaud, très humide ce matin, donc 32 pour l'humidex, et des périodes de vent aussi de 40 à 50 km/h. En soirée, nuageux, il y a possiblement de la pluie et même des averses qui sont prévues. Et le mercure devrait indiquer autour de 16 degrés pour la nuit. Puis on termine la semaine avec de la pluie demain matin. Quelques averses, ça va cesser en mi-journée. Il y a un dégagement, mais avec les averses, possiblement aussi un risque d'orage avec le maximum prévu autour de 21 degrés, ce qui veut dire que ça va se rafraîchir progressivement. Samedi, on prévoit du soleil 21, dimanche, gris, pluvieux, autour de 19. Et c'est un peu comme ça pour la semaine prochaine. Bon, deux événements à surveiller à Québec aujourd'hui. D'abord, le dépôt du projet de loi pour faire en sorte qu'on puisse se débarrasser des manifestants anti-vax devant les écoles et devant les hôpitaux. Ça prend l'appui de l'ensemble des députés pour que ça passe vite, sinon ben, il y aura un certain délai. Et je le disais tantôt, c'est une belle patate chaude entre les mains d'Éric Duhaime. Là, on va définir ça comment. Le libellé va être important. On ne veut pas empêcher les manifestations, c'est sûr. Et Duhaime soulevait des questions. Qu'est-ce qui arrive avec les étudiants? Qu'est-ce qui arrive avec les syndiqués du réseau de la santé, les profs qui font des activités autour des écoles pour manifester quand il y a un conflit de travail ou des renouvellements de conventions collectives? Alors, je ne sais pas exactement, on verra plus tard, comment ça va être libellé puis quel sera l'impact. Parce que ce qu'on veut, c'est se débarrasser de ces gens qui viennent se mêler avec les porte-voix de la vie scolaire puis de la quiétude du personnel, par exemple, du réseau de la santé. Allez manifester, mais pas devant les écoles puis pas devant les hôpitaux. Alors, détail de la quincaillerie un peu plus tard. Deuxièmement, présentation du plan du ministre Christian Dubé au sujet de la stratégie, j'allais dire, nationale pour garder dans le réseau de la santé les infirmières, puis l'ensemble du personnel, les préposés, infirmières auxiliaires et autres, puis attirer des gens qui sont partis à la retraite ou au privé. Encore là, pas de détails, il n'y a pas eu de fuite. Pas trop. On sait qu'il y aura des incitatifs, ça a été mentionné. Mais pour le reste, on verra. C'est un peu bizarre parce que je voyais ce matin Radio-Canada qui nous apprend que 16 000 infirmières et infirmières auxiliaires ont été embauchées au Québec depuis 2 ans. Et il y a de nombreux établissements de santé qui ont été capables d'embaucher un plus grand nombre d'infirmières par rapport à celles qui ont quitté. Et en plus, l'intérêt est toujours là dans les universités. On l'a dit au départ, c'est pas un manque réel d'infirmières, c'est qu'on les a pas à la bonne place. Quand je dis à la bonne place, je parle dans le réseau de la santé. Et là, on va voir comment Québec va réagir, mais c'est pas vrai dans toutes les régions, là, parce qu'il y a des pénuries. Il manque d'infirmières un peu plus spécialisées. Les blocs opératoires ne fonctionnent pas à plein régime. Et hier, la PDG du CIS des Laurentides qui nous disait qu'il y a 500 postes affichés pour lesquels on a un budget, on a du travail, là, qui n'ont pas été comblés. Donc, aujourd'hui, il y a ce volet-là. Troisième élément ce matin, c'est évidemment la saga des anti-vaccins. Ils sont pas nombreux, là, mais ils sont bruyants et attirent l'attention. D'une part, et d'autre part, on le voit avec, et on vous le répète depuis des jours, le profil des hospitalisations régulières et aux soins intensifs a complètement changé avec cette nouvelle vague. Dans la presse ce matin, on nous donne un portrait quand même de la Cité de la Santé. Et quand vous regardez justement le profil, c'est assez clair, là. Ce sont des jeunes qui sont plus malades et qui séjournent plus longtemps à l'hôpital. Quelques données, là. La Cité de la Santé comptait 23 patients atteints de la COVID hier matin, 5 aux soins intensifs. Parmi les cas aux soins intensifs, un dans la vingtaine, un dans la trentaine, 2 dans la quarantaine, puis le plus vieux était dans la soixantaine. 18 autres patients hospitalisés étaient également dans la trentaine. des gens non vaccinés ou pas vaccinés adéquatement. Et il y a un radiologue de l'hôpital Cité de la Santé, le docteur Simon Blais, qui dit « Si j'avais un message à passer aux gens non vaccinés, c'est que c'est réel. Et les pires radiographies qu'on voit sont ceux qui ne sont pas vaccinés. » Et il dit, je le cite encore, « Tout le monde peut faire une pneumonie, mais souvent ça va toucher seulement une partie des poumons. Et avec la COVID, ça touche les deux poumons et plus de 50 % des poumons. Donc, c'est énorme comme atteinte. Bien sûr, des gens plus jeunes vont peut-être s'en sortir par rapport à des gens plus vieux, des gens plus vulnérables, mais ils vont traîner à l'hôpital plus longtemps, puis ils vont occuper des lits dont on aurait besoin pour soigner d'autres types de patients. Alors, on le voit, d'un, que la vaccination fonctionne, puis que deux, ceux qui sont à l'hôpital, puis c'est intéressant, c'est voir la réaction des gens qui sont soignés, puis des proches qui réalisent là, que c'est pas une vue de l'esprit être frappé par la COVID, puis que même si t'es en santé puis jeune, tu peux dans certains cas te retrouver à l'hôpital, cloué à un lit pour un bon bout de temps. Et ça m'amène à vous parler de Guillaume le Métis Vierge. Alors, mes collègues de la presse, Hugo Dumas et Patrick Lagacé, nous expliquent ce matin que Guillaume le Métis Vierge est un anti-vax. D'une part, il s'en cache pas trop. Et en même temps, ça a un impact sur sa carrière. Un, il ne pourra pas réaliser les épisodes de District 31. Il fait ça depuis, je pense, c'est 2019. Puis il fait partie de la rotation des réalisateurs. Parce qu'un réalisateur, ben, ça travaille avec des acteurs sur un plateau de proximité. Et on l'a tassé. T'as des règles sanitaires. C'est pas facile de tourner. Puis rappelons-nous, là, les premiers épisodes de District 31, quand ça a été autorisé, des scènes tournées différemment, puis de la distance, puis bon. Il y a des protocoles sanitaires extrêmement sérieux, rigoureux, qui sont imposés. Alors, lui, il ne veut pas se faire vacciner, mais ils ont dit, regarde, tu ne pourras pas réaliser les épisodes. C'est pas confirmé par Fabienne Larouche, mais disons que nos deux collègues de la presse ont eu vent de ça, et il ne pourra pas le faire. Pour ce qui est des autres émissions, comme par exemple les chanteurs masqués, ben là, la production est, pour ainsi dire, terminée. Et il semble qu'il avait respecté les règles sanitaires. Et pour ce qui est d'une autre émission pour laquelle il travaille, ça veut dire qu'il ne pourra pas faire la promotion si on s'aimait. Alors, il reste, semble-t-il, des fils attachés au niveau de la promotion. Puis on sait que les grands diffuseurs vont imposer le passeport vaccinal à tous les employés. Puis ça comprend les artistes, là, ça comprend les visiteurs à partir du 1er novembre. Des modalités restent à être précisées. Alors, il va faire quoi, Guillaume le Métis Vierge? Puis l'autre question, c'est Hyundai. On sait que les commanditaires n'aiment pas se retrouver avec des porte-paroles qui sont dans une controverse. Parce qu'en plus de ne pas être vacciné, il semblait que c'est essayé deux fois dans des restos en disant qu'il était un peu spécial. Peux-tu y aller pareil? Pouvez-vous me réserver une table? T'sais, puis t'es connu, tu t'appelles Guillaume le Métis Vierge. Puis tu te dis, tu es moyen d'eux, hein? Ça a l'air qu'il s'est fait dire non deux fois. Alors, il va être intéressant de voir la réaction de Hyundai. Pour l'instant, lui n'a pas commenté. C'est pas quelqu'un là, qui écrit à la tonne sur les réseaux sociaux. Là. C'est pas Anne Casabonne version gars. Là. Mais il paraît qu'il essaie de convertir aussi les gens à renoncer au vaccin en disant que c'est une opération de lavage de cerveau. Et il y a une autre école aussi qui a été forcée de fermer ses portes, l'école primaire Saint-Émile à Montréal. C'est la troisième école cette semaine. On parle pas d'une classe, là. On parle de l'école au complet qui est fermée temporairement parce qu'il y a éclosion de COVID. Et hier, je sais que mon collègue Patrick a parlé, Patrick Lagacé, avec une mère qui a fait des recherches. Puis il semble, puis là, il faut y aller avec, disons, prudence, qu'une enseignante complotiste, anti-vaccin, qui elle-même a été contaminée, serait peut-être à l'origine de cette éclosion. Puis là, c'est pas long que la chaîne s'engage, mais c'est pas confirmé par personne. Mais c'est une enseignante qui, elle, très active sur les réseaux sociaux et qui dénonce la vaccination, le port du masque et toutes ces mesures-là. Donc, ça va être fermé pour quelques jours. En principe, le retour devrait se faire lundi 27 septembre. Puis on recherche également l'homme qui a frappé cette vaccinatrice dans une pharmacie. Quand vous lisez les détails de ça, on vous en parlait hier matin, là, ça montre pas juste un anti-vaccin, là. Ça montre un gars probablement extrêmement violent, là, par son tempérament. Puis là, tu sais, de dire « ma femme a été vaccinée sans son consentement à lui, à elle, à... » Tu sais, le freak contrôlant, là, capable de brasser quand on l'écoute pas. Fait que c'est pas juste une histoire de vaccination. Ça doit cacher peut-être une relation de couple assez spéciale. Et puis un coup d'œil vers l'Alberta. On a actuellement 1000 patients dans les hôpitaux. Puis si vous faites le ratio avec le Québec, là, ce que ça voudrait dire, là, ça serait une explosion. Et les soins intensifs en Alberta sont occupés à 90 %. Et là, ils sont en train, depuis déjà quelques semaines, de penser à ce protocole de triage pour les cas critiques. Si jamais on atteint 100 % de la capacité, comment on trie? Qui on garde? C'est pour qui l'appareil? C'est pour qui le lit? Et on a déjà jonglé avec des scénarios comme ça au pire de la crise ici. Mais là, l'Alberta est confrontée à ça. Je vais vous parler de la DPJ. Rapport qui nous montre quoi? Que les listes d'attente à travers le Québec débordent. Il n'y a pas une augmentation de signalement, là. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que plus de 740 enfants sont dans l'attente que leur dossier soit traité à Montréal. 740 enfants. Vous connaissez la réponse. C'est un manque de personnel. Je reçois beaucoup, mais vraiment beaucoup, de témoignages d'intervenantes de la DPJ. Les cas sont lourds. Les cas nécessitent un plan d'intervention, je dirais, où plusieurs professionnels, en principe, doivent être impliqués. On n'a pas le temps. On manque de ressources. On manque d'intervenantes. On manque de professionnels. Et c'est clair que ça retarde le traitement des dossiers. Il y a 500 signalements de moins. Si vous voulez mon avis, ça ne veut pas dire grand-chose, ça, 500 signalements de moins pour une période d'un an. Puis rappelons-nous qu'on a une période aussi de confinement dans ça, puis on ne sait pas trop ce qui est arrivé, puis est-ce que ça a retardé, justement, des cas où on est... En fait, il y a des cas qui sont passés sous le radar. Les cas d'abus corporels, de mauvais traitements psychologiques, puis des cas graves de négligence sont à la hausse. Sérieusement, si on veut se regarder puis se dire la vérité, là, on a un méchant problème. On a eu le rapport de la commission Laurent, mais là, on attend les effets positifs. Je veux bien là, que ça se règle pas en criant lapin, là, mais sérieusement, là, des enfants dont l'avenir est compromis, où il y a une certitude, ils ont besoin d'un plan qu'on n'est pas capable de leur donner. On les place en attente. Et ça fait des années que c'est comme ça. Et ça ne s'améliore pas. Je vais parler avec la nouvelle directrice nationale de la DPJ. C'est un poste qui a été créé justement dans la foulée du rapport Laurent. C'est quoi le plan de match? Je m'en cache pas, là. Ces gens sont à l'écoute ce matin, là. Je vous la lance. Fait quoi, là? Qu'est-ce que vous allez faire? Là, on va annoncer un plan pour le réseau de la santé. Allez-vous développer un plan pour la DPJ, pour amener du monde, garder du monde? C'est à suivre. Dossier Desjardins. Ça, c'est un de mes dossiers préférés, vous le savez. Alors, hier, il y a un courtier hypothécaire de Québec qui était suspecté et qui est toujours suspect dans l'affaire du vol de données, qui a été déclaré coupable d'avoir acheté une liste de 150 000 à 200 000 noms de clients sans évidemment leur consentement. Alors, vous faites la chaîne, t'as le voleur à l'intérieur de Desjardins qui est capable, de façon extraordinaire, de copier tout ça sur des clés USB, puis il vend les informations, puis les informations sont précises, là. C'est pas juste un nom, là. C'est des détails sur le compte hypothécaire de chacun des clients pour être capable de les cibler. Ça a l'air que ça coûtait une pièce pour les 50 000 premiers noms, puis après ça, c'était à 40 sous. Ça lui a coûté au total 100 000. Et tu avais le solde hypothécaire, le taux d'intérêt du prêt, les dettes, le crédit, les primes d'assurance, tout le détail, là. Et en plus de ça, ce courtier qui doit travailler dans l'intérêt, évidemment, de son client et de ses clients, bien, lui, il avait trouvé une façon de faire en sorte que son entreprise personnelle accordait des prêts directement à certains clients. Fait qu'il touchait les frais de commission, puis des intérêts, puis des frais de gestion. Alors, il s'est fait taper sur les doigts. Mais c'est une pinotte, là. Puis on va parler avec Maître Denis Galland tantôt. Parce que tout le dossier des jardins reste entier. Puis j'ai pas besoin de vous dire que ça traîne, que c'est long, que Desjardins n'a pas l'air de collaborer trop. Eux nous disent le contraire, mais quand vous entendez des bruits de feuilles autour de l'enquête, bien, compliqué. Puis Desjardins se protège de derrière. Puis l'image, bien important avec le président Guy Cormier, l'image de l'institution. Pour avoir de leur parler de ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Puis là, on remonte la filière, là. Puis non, circule. Puis il n'y a personne qui est encore accusé. Dans Le Devoir ce matin, on parle du débat autour de la loi 96 qui vient renforcer le français au Québec. Il y a plusieurs angles. Je vous en donne deux là, rapidement. D'abord, il y a la présence à Montréal d'étudiants étrangers qui viennent ici, qui parlent anglais et qui changent le visage de la métropole. L'accès au cégep également anglais. Il n'y a pas de restrictions. Le gouvernement de la CAQ a dit on va faire en sorte que les admissions vont être plus contrôlées, mais il n'était pas question de l'interdire, comme le PQ, par exemple, l'a proposé. C'était une des idées véhiculées par mon ami Pierre Curzi, de dire vous poursuivez votre parcours en français, même au collégial. Et donc, il y a ce volet-là que plusieurs présentent comme l'angle mort, si on veut, c'est le titre du Devoir ce matin, de l'anglicisation de Montréal. Alors, puis d'un autre côté, vous avez des anglophones qui disent, écoutez, ben, oui, il y a des gens qui ne parlent qu'anglais, mais il y a beaucoup d'anglophones qui sont bien à Montréal. Les plus têtus, les plus butés ont quitté souvent depuis longtemps. Et dans le fond, vous voulez protéger le français, ce qui est très bien, mais on ne veut pas que nos droits soient réduits. Puis en même temps, comment vous allez empêcher? Puis c'est un angle qui est intéressant, là. L'attrait de l'anglais chez les francophones. Pour les films en anglais, pour la musique en anglais, combien vous avez de groupes qui chantent en anglais, composés de francophones, pour qui la consommation de la culture passe par l'anglais? Tu ne peux pas empêcher ça, tu ne peux pas contrôler ça. Montréal, c'est une ville, une grande ville, et ça attire des gens de tous les horizons. Puis, je connais plein d'artistes, moi, qui si vous ouvrez demain matin leur liste de musique, vous allez découvrir qu'il n'y a pas beaucoup de franco là-dedans. Puis ça fait partie des choix, ça fait partie des goûts. Alors, il y a quand même une volonté, puis il faut dire que le ministre Jolin Barrette mène ça assez rondement. Et je dirais avec doigté, parce que c'est délicat, là, parce qu'on est dans les susceptibilités. Puis juste pour finir là-dessus, vous regarderez dans le journal de Montréal ce matin, les délinquants du français, 10 bannières qui ont accumulé des plaintes concernant la langue. Alors, vous avez Tim Hortons, Walmart, Dollarama, Pizza Pizza, PFK, IGA, Métro. Métro qui aurait de la misère avec le français. Canadian Tire, McDonald's et Domino's Pizza. Alors, c'est sûr que des grandes bannières comme ça font l'objet de plus de plaintes. Donc, dans le journal, vous avez la liste complète. 6h23. Autoroute des Laurentides.